Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Les autres. Geneviève Peterson.
Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
Une enquête qui est en cours pour éclaircir les circonstances du décès de Joyce Echaquan, une informaticamèque de 37 ans qui est décédée lundi, donc hier, dans des conditions douteuses à l'hôpital de Joliette, dans la Naudière. J'en parle avec Constant Awashish, grand chef de la Nation Atikamekw. Monsieur Awashish, bonjour.
Bonjour Geneviève.
Écoutez, je vais faire un rappel de ce qui s'est passé là, pour les auditeurs peut-être qui n'ont pas suivi cette histoire-là qui est en train vraiment de devenir virale et qui est rendue justement jusqu'au point de presse du premier ministre. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que jeudi dernier, cette femme-là de 37 ans s'est rendue à l'hôpital de Joliette, Joyce Echaquan. Et selon sa famille et ses proches, elle avait des douleurs à l'estomac. Et là, c'est dans une vidéo en direct sur Facebook que son entourage a reçu des nouvelles d'elle. Ça se passait lundi. Et dans cette vidéo-là, on peut l'entendre crier à l'aide en Atikamekw, dire qu'elle a reçu trop de médicaments. Et vraiment, là, je le redis, cette vidéo-là, elle est devenue virale. Elle est très, très choquante parce que, bon, évidemment, on entend la détresse de cette femme-là. Mais ce qui attire l'attention aussi, c'est les propos qui ont été tenus par deux membres du personnel, des propos qui sont d'une rare violence. On peut les entendre.
Ah! As-tu fini de niaiser, là? As-tu fini, là? Oh,
Et des propos qui sont très, très difficiles à entendre, mais je trouvais ça quand même important qu'on écoute ce que ces deux employés-là de l'hôpital ont servi comme traitement à cette femme qui est décédée. Constant, Awashish, quand vous entendez des propos comme ça que ces infirmières auraient tenus, comment vous réagissez?
Je réagis, je pense que comme la plupart des gens, là, on est très troublés face à ce genre de propos-là. Mm. C'est incompréhensible. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour décrire tous les sentiments qui nous passent par la tête en écoutant cette vidéo-là. On se pose des questions, pourquoi en 2020 encore? Surtout moi, en tant que parent, je me pose la question, est-ce que mes filles vont vivre ce genre de situation-là quand ils seront plus âgés? Il y a plein de questionnements qui nous passent par la tête, des gens qui nous partagent également, peut-être qu'eux aussi, des membres de leur famille qui sont décédés dans des situations similaires, peut-être qu'ils ont passé par la même chose, mais ils n'ont pas eu la chance d'avoir une vidéo pour prouver les faits. Il y a beaucoup de partage présentement d'informations sur les traitements qui sont donnés aux Autochtones, mmh. nous, aux Atikamekw, par rapport dans les services publics.
Oui, puis bon, François Legault a été interpellé pendant la période des questions sur cet incident-là qui est tragique. Cette infirmière, une des deux infirmières qu'on peut entendre, a été congédiée. Est-ce que bon, l'autre, on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer avec elle. Là, c'est pas encore clair, mais clairement, au gouvernement, on prend la situation au sérieux. J'ai envie de dire, c'est peut-être parce qu'il y a une vidéo. Je sais pas. Ça, c'est moi qui le présume. Le premier ministre, par ailleurs, qui évite savamment d'utiliser l'expression racisme systémique. Mais je veux qu'on en parle du système. Est-ce qu'il y a un problème avec le système de santé et les Autochtones, les gens des Premières Nations?
Moi, tous les partages que j'ai eu comme information de mes membres, mais également ailleurs, là, il y a toujours des c'est régulier, il y a des propos toujours désobligeants envers des Autochtones. Il y a des situations inconfortables qui vivent également lorsqu'ils reçoivent des soins.
Par exemple.
Faut pas généraliser, mais il y a des situations qui sont régulièrement partagées à mon égard. On les écoute, on les comprend, on les partage, mais d'avoir une vidéo qui vient vraiment démontrer, amener une preuve là, d'un incident en flagrant délit. Là, on vient de monter d'un autre niveau là, où on peut plus nier la situation.
Ben oui, puis quand on écoute ces propos-là, là, on voit que ce type de propos-là qui entretiennent les préjugés envers les Premières Nations, là, je pense entre autres au fait que les gens qui sont issus de ces communautés-là paient rien, sont issus du gouvernement, c'est-à-dire vivent aux mamelles de l'État, littéralement. On entend une des deux infirmières dire « tes enfants seraient pas fiers, ce monde-là, c'est rien que bon enfourré. » Ce sont des idées quand même qui sont largement répandues encore dans la population, selon vous, M. Awashish?
C'est sûr que c'est ce genre de préjugés-là, ça a été entretenu et véhiculé depuis maintenant au-dessus de 150 ans. Quand que les Premières Nations sont devenues des problèmes au lieu d'être des alliés, on est devenu un problème au développement, on est devenu un peuple non civilisé. C'est là que ça a commencé toute cette histoire-là des préjugés face aux Premières Nations. Par la suite, on nous a rendus dépendants, on nous a rentrés dans des réserves, faut le dire carrément. Et c'est comme ça que les préjugés ont été développés, et c'est comme ça que si on étudie l'histoire, si on fait un peu l'anthropologie de la société, pas juste ici, mais ailleurs, mais c'est tout le temps le modus operandi qui est utilisé pour c'est de rabaisser les cultures, rabaisser les modes de vie et détruire les civilisations.
Puis est-ce que vous pensez que les médias contribuent un peu à entretenir ces préjugés-là? Parce que souvent, quand on parle des Premières Nations, ce qui défraie dans les manchettes, c'est tous les problèmes que vivent les communautés?
Ouais, en effet, c'est sûr que je veux pas dire exactement que les médias entretiennent. C'est peut-être encore de l'incompréhension, le manque d'éducation, les mots qui sont utilisés également par les représentants de l'État, souvent, qui peut...
Mais donnez-nous des exemples. Donnez-nous des exemples de ces mots-là.
Par exemple, lorsqu'on parle de nous, quand on... C'est vrai qu'on parle de revendication territoriale, c'est vrai qu'on parle de nos droits, on allègue souvent nos droits, on demande plus de respect, on veut être consulté, on veut avoir un mot à dire sur le développement de nos territoires ancestraux. Je pense que nos droits, oui, ça l'hérite quelques-uns, mais on fait partie d'un état de droit et on appartient à un corpus législatif, et les droits autochtones également font partie de ce corpus législatif-là. Mais souvent, ces droits-là sont mal expliqués, sont expliqués d'une façon explosive et qui rassure pas nécessairement la population en général. Et c'est pour ça que régulièrement, j'essaie d'expliquer, de vulgariser également cette problématique-là. On n'est pas là pour envoyer tout le monde en Europe. On est là pour redevenir des alliés, développer la société, créer une meilleure société où ce qu'on pourra s'épanouir chacun dans nos différences, mais également d'arrêter d'entretenir une maison de paille, mais de créer une vraie maison en pierre où ce qu'on va pouvoir défendre notre territoire ensemble, et on va pouvoir défendre notre société ensemble. Et il faut regarder également la géopolitique. On n'est pas garant de l'avenir. On ne connaît pas nécessairement qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Moi, mon intérêt, c'est de protéger mes membres, protéger mes enfants, protéger les générations futures. Puis quand je parle des générations futures, je parle de mes générations à moi, mais également des générations de tous ceux qui sont sur nos territoires.
Puis il n'y a personne qui a envie d'aller à l'hôpital et d'être traité comme ça, là, on s'entend, là.
Il n'y a personne. Puis d'ailleurs, je pense que ça l'aide pas à la confiance que les Autochtones vont avoir au système.
Bien, évidemment, non. En terminant, Constant Awashish, est-ce que, tout au long de la pandémie de COVID-19, on a beaucoup parlé des inéquités, on a beaucoup parlé aussi des injustices, des problématiques aussi auxquelles font face les populations vulnérables, en ce sens que ça augmente, si on veut, la pression et que ça peut créer davantage de tensions, davantage de violence. Bref, ça amplifie les problèmes. Est-ce que la pandémie a eu des impacts particuliers dans certaines communautés? Comment vous vous en sortez depuis le début de tout ça? Avez-vous du support? Avez-vous de l'aide? Comment ça se passe?
Je pense je veux juste vous faire un sens figuré de la situation. Nous, on est habitué de toujours vivre un peu en marginalité. C'est sûr qu'on prend pas de chance. On on restreint les accès dans nos communautés pour s'assurer justement que de minimiser l'impact dans nos communautés, empêcher l'entrée du virus dans nos communautés. Mm. Pourquoi qu'on agit de cette façon-là? Parce que on est toujours dans le problème, dans un manque de ressources au niveau des ressources humaines, au niveau de également des services. Puis il faut s'assurer qu'on puisse pouvoir faire face à cette pandémie-là avec les moyens que nous avons. Oui, on reçoit une certaine aide des deux paliers gouvernementaux, mais c'est encore très peu aux besoins dans lesquels nous faisons face régulièrement.
Il y a des endroits encore où il n'y a pas l'eau courante, où il y a des conditions de vie qui sont très, très difficiles. Là, on a vu des images circuler dans les médias depuis quelques années. Je ne vais pas dire des conditions dignes du tiers-monde, mais ça ressemble à ça pas mal.
Il y a des conditions encore pires que le tiers-monde, des places. Mais chez les Atikamekw, on est quand même assez chanceux. Ouais. On a quand même été bien gouverné et de façon raisonnable. On a quand même des bons services, mais il y a encore beaucoup de manque à gagner au niveau de la santé, de l'éducation et également du logement. Tout ça crée des problèmes qui peuvent être explosifs en temps de pandémie. Maintenant, on utilise les moyens. Et juste pour finir mon propos tantôt, là, on est les. Il y a un grand panier. Les gens pigent dans le panier. Les Canadiens, les Québécois pigent dans le panier. Puis les Autochtones arrivent en dernier. C'est demain qu'il faut voir ça.
Eh mon Dieu, c'est le temps que ça change. Constant Awashish, merci, grand chef de la nation Atikamekw. On se parlait de cette terrible histoire, une dame qui a perdu la vie, une Atikamekw, son nom Joyce Echaquan. Elle avait 37 ans, elle est décédée le lundi 28 septembre dans des conditions douteuses à l'hôpital de Gillette. Évidemment, il va y avoir une enquête. Le 6 de la Naudière va se pencher là-dessus, le coroner aussi. Et là, ça a attiré l'attention du gouvernement. Là, je rappelle qu'une des deux infirmières qui a tenu des propos violents et problématique a été congédiée. Nombreuses réactions de la classe politique, notamment sur Twitter, la ministre Sylvie Damour, qui est responsable des affaires autochtones, qui dit écoutez, il faut absolument savoir ce qui s'est produit. Une enquête est en cours et là, il va y avoir un plan de lutte contre le racisme et la discrimination envers les Premières Nations au Québec. C'est ce qui a été annoncé par Ghislain Picard. Ghislain Picard, c'est le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec et Labrador. Il a dit ça un peu plus tôt en point de presse. Évidemment, c'est une histoire qu'on va continuer de suivre, des images qui ont fendu mon cœur littéralement. C'est épouvantable d'entendre ça et de se rendre compte que encore aujourd'hui, il y a des préjugés comme ça dans notre système de santé. Quand tu vas te faire soigner à l'hôpital, quand tu vas à l'hôpital parce que tu es en douleur, parce que tu es malade, parce que tu as mal, la dernière affaire à laquelle tu devrais t'attendre, c'est que les gens qui te soignent te considèrent comme une moins que rien à cause de ton origine ethnique ou ta situation sociale.